Chapitre 56. 3 octobre 1998, 15h23. Marc conduisait d'instinct. Le camion Citroën ne bronchait pas. Ce n'était pas le moment. Le véhicule fit son possible pour gravir avec régularité les lacets jusqu'au pied du mont terrible. Marc traversa Indevillers, puis s'engagea dans un sentier de gravillon blanc, bordé de bûches empilées sur plusieurs centaines de mètres. Il ne pouvait pas se tromper. Il n'avait qu'à suivre la direction indiquée par les petites flèches de bois sculptées au bord de la route. Maison du parc naturel du Haut-Jura. Il se gara devant la maison du parc. Une vaste pelouse entourait un chalet musée. La façade de la maison était décorée d'un grand plan du Jura franco-suisse, indiquant les différents sentiers de randonnée. À côté du parking où il était stationné, une petite aire abritait quelques jeux en bois, barres, toboggans et cordes lisses, sans doute destinées aux apprentis alpinistes que les randonnées montagnardes avec leurs parents n'avaient pas épuisées. « Il est 16h, » fit Marc. « On peut être au sommet largement avant la nuit. » Malvina le regarda avec une ironie non dissimulée.
« Tu comptes trouver quoi là-haut ?»«
Rien. T'es pas obligé de me suivre, tu sais. »«
Oh, t'es vraiment trop con. Pourquoi tu crois que je suis venu jusqu'ici ?»
Marc entra dans la maison du parc. Il acheta une carte IGN au 25 millième de la région et un topo-guide. Une grande fille brune, coiffée de longues tresses façon indienne, tenait la caisse. Un type lui caressait la main comme pour lui montrer sur quelle touche appuyer. De l'autre, il pelotait franchement les fesses de la squaw stagiaire. « Grégory, » pensa Marc. L'ingénieur de la maison du parc aux yeux de Husky, l'homme des bois collectionneur de petites stagiaires fraîchement sorties de l'université. Marc rejoignit Malvina dehors, étala la carte sur une table devant la maison du parc et repéra rapidement le sentier à suivre jusqu'au sommet du mont terrible. Il replia la carte, puis ouvrit la porte arrière du camion. Il sortit un sac à dos et le bourra d'un duvet, d'une lampe de poche, d'une bouteille d'eau, d'un saucisson et de quelques paquets de gâteaux.
Tu avais prévu ton coup ? C'est la caverne d'Ali Baba, le cul de ton camion ?
C'est pas très grand chez ma grand-mère, vois-tu ? Ni cave, ni garage. Alors on stocke dans le camion.
Je peux me servir ?
Ouais. Remplis pas trop. Faudrait pas que le sac soit plus lourd que toi.
Oh, rêve pas, c'est toi qui vas pleurer ta grand-mère avant d'être en haut.
Marc se força à rire. Il n'avait plus envie de penser de façon rationnelle, de rechercher une stratégie quelconque. Il sentait bien que le voyage qu'il entreprenait n'avait aucun sens. Gravir le mont terrible, retourner sur les lieux de la tragédie, chercher ensuite la cabane de Grand-Duc et la tombe. Grand-Duc pouvait se trouver n'importe où, mais certainement pas là-haut. Il s'enfonçait dans une spirale obsessionnelle. La gourmette en or, les poussières d'os de nourrissons, les traces d'un SDF témoin du crash. Autant de petits cailloux semés par Grand-Duc, comme un petit poussé sadique. Qu'espérait-il trouver, une fois au sommet ? Le miracle ? L'illumination ? Il grimaça. Oui, en fait, c'était exactement ce qu'il espérait. Ils se mirent en route. Comme prévu, l'ascension dura 2 bonnes heures. Marc progressait rapidement. Malvina suivait sans montrer le moindre signe de fatigue. L'ascension n'était pas très difficile, 500 mètres de dénivelé par un sentier bien balisé à travers la forêt. Au fur et à mesure de la montée, le panorama sur le clos du Doubs, la Suisse, le village fortifié de Saint-Ursanne, se dévoilait. Ils s'arrêtèrent pour boire à mi-pente. Il faisait une chaleur un peu lourde. Marc suait, sa chemise sous le sac à dos était trempée. Malvina, pour sa part, avait gardé son pull, et pourtant, pas une goutte ne perlait sur sa peau. On atteignait le sommet du mont terrible par une forêt dense de pins en pente douce. Marc accéléra encore. Malvina emboîtait son pas, suivait son rythme, se calait même sur son souffle. L'effort physique les rendait complices, se surprit à penser Marc. Ridicule, corrigea-t-il dans l'instant qui suivit. La scène du drame s'imposa à eux, sans prévenir. Il n'y avait plus de forêt devant eux. Comme si une horde de paysans défricheurs était venue sur le mont déboiser une improbable parcelle. Avec une minutie d'arpenteur, une parcelle longue et étroite mise à nu en lanière. Une bande de 40 mètres de large sur 1 kilomètre de long. Des jeunes pins avaient été replantés. Ils ne dépassaient pas encore 1 mètre, tels des nains missionnaires envoyés pour repeupler une planète de géants. Des nains joyeux dans une cour de jeux multicolores. La parcelle rectangulaire était couverte de gentianes jaunes et bleues, de sabots de Vénus, d'arnica aux nuances orangées. Malvina et Marc se tenaient immobiles, côte à côte. Il ne restait aucune trace de la catastrophe. Pas un monument, pas une plaque de marbre, pas même un écriteau. C'était mieux ainsi, pensa Marc. Des milliers de fleurs des champs. Dans une 20aine d'années, les jeunes pins allaient atteindre une taille proche de celle des autres conifères dans la forêt. Leurs branches allaient se rejoindre comme des mains se touchent, et progressivement, dans l'ombre, les fleurs des champs n'allaient plus refleurir, étouffées, endeuillées à leur tour, abandonnant la place aux fougères, à la mousse, au mieux à quelques jonquilles. Et tout serait oublié. Ils demeurèrent là, silencieux. Marc se tenait debout, exactement au même endroit, entre la forêt et la clairière rectangulaire, comme s'il n'osait pas profaner le lieu. Malvina s'éloigna un peu et marcha dans l'herbe. Les plus hautes tiges lui arrivaient aux cuisses. Marc, malgré lui, sentait son rythme cardiaque s'accélérer. Il avait un peu de mal à déglutir. Il connaissait trop bien ses premiers symptômes de crise d'agoraphobie, même s'il se manifestait ici avec davantage de lenteur, peut-être à cause de l'altitude. Cette foutue peur d'avoir peur. Il ne dit rien, ne bougea pas, se contentant de respirer plus fort. Malvina dut l'entendre, ou ne rien entendre et s'en étonner, ou même comprendre, pourquoi pas. Elle se retourna. Le soleil qui la forçait à plisser les yeux pouvait même laisser croire qu'elle lui souriait. Une sorte de sourire triste, de trêve mélancolique, de désespoir paisible. Marc toussa. Jamais il ne l'aurait avoué à Malvina, mais il respirait mieux. Oui, même si sous la torture il aurait continué de jurer le contraire, il devait bien reconnaître en lui-même que la présence de cette folle le rassurait, plus encore dans ce sanctuaire dont il partageait le secret. Ils durent rester là plus d'une heure. La légère lueur du soleil sous les nuages avait presque rejoint la cime des arbres. « On va à la cabane ?» fit doucement Marc. Malvina ne répondit pas. Elle se contenta de le suivre. Marc dut consulter plusieurs fois la carte. Ils passèrent près d'une heure à errer dans la forêt, à faire demi-tour dans des clairières qui se ressemblaient toutes. À croire que Grand-Duc avait tout inventé. Malvina ne fit pas une réflexion. Elle essaya même de son mieux d'aider Marc alors qu'il tentait de décrypter le topo-guide. La nuit commençait à tomber lorsqu'ils finirent par dénicher la fameuse cabane. Grand-Duc n'avait pas menti. Elle était telle qu'il l'avait décrite dans son cahier. Une cabane de berger, des pierres posées les unes sur les autres, un toit en ruine. Un instant, Marc espéra que crédule Grand-Duc les attendait là, à l'intérieur. Il glissa la main par réflexe dans sa poche sur le Mauser. Pour rien. La cabane était vide, plus propre que ce qu'avait raconté Grand-Duc. Mais le détective avait précisé qu'il avait ramassé dans des petits sacs plastiques presque tous les détritus, à la recherche de l'étrange Georges Pelletier. Ce fugitif existait-il au moins ? Marc ressortit de la cabane, en fit le tour. Aucun des détails décrits par Grand-Duc ne manquait. La terre retournée, des pierres dispersées sur quelques mètres. Deux morceaux de bois ayant pu être assemblés pour former une croix brisée à proximité. Grand-Duc n'avait pas menti non plus sur ce point. Il existait bien, à côté de cette cabane, une tombe que le détective avait profanée par deux fois pour trouver dans son tamis une maille d'or et des débris de nourrissons humains. Qu'est-ce que cela changeait maintenant ? Marc regarda sa montre, 19h36. Il n'avait reçu aucun nouveau message de Lily. Il s'assit sur un tronc mort à quelques mètres de la cabane. Le soleil se couchait sur ce toit du monde, le toit de son monde au moins. loin de tout, juste accompagnée d'une folle. Pas si folle que cela, d'ailleurs. Pas si dangereuse. Pas si mauvaise. Il avait perdu. Il allait laisser les souvenirs douloureux l'envahir, le submerger. Il allait se complaire dans cette nostalgie morbide pour éviter de penser qu'en ce moment même, Lily dormait dans la chambre d'une clinique. Allait se faire avorter dans quelques heures parce que la fleur de leur amour devait être condamnée, tel un fruit empoisonné, en vertu d'un insupportable principe de précaution. Pour éviter également de penser que le seul qui pouvait l'aider, le meurtrier de son grand-père, se promenait quelque part en liberté et qu'il n'avait aucune chance de le trouver ici. Malvina vint le rejoindre.
« C'est prêt !»
Elle avait disposé sur un coin de tissu la bouteille d'eau, les paquets de gâteaux et le saucisson, en vrac.
« Un sacré gueuleton, hein ?»
Ils mangèrent, silencieusement. Seule la lune éclairait maintenant la cabane qui prenait des allures de masure hantée au milieu d'une forêt d'ogres. Ils étaient tous les deux conscients qu'il était trop tard pour redescendre, qu'ils devraient dormir là-haut, ensemble. Sans échanger une parole, ils étaient d'accord. Ils étaient venus pour cela. Une nuit sur le Mont Terrible. Deux orphelins perdus dans un cimetière sans tombe. Lorsqu'ils eurent tout rangé, Marc sortit de son sac à dos le cahier vert de Crédule Grand-Duc. Il le tendit à Malvina. « Tiens, ça doit faire un bout de temps que tu cherches, non? Tu seras peut-être plus maligne que moi. »
« Ce sont les mémoires de l'autre bâtard ?»«
Comme tu dis. »«
Merci quand même. »
Malvina prit le cahier, son duvet, une lampe torche et rentra dans la cabane. Marc, au contraire, s'éloigna, marcha, éclairant simplement ses pas du filet de lumière de sa torche. Il resta de longues minutes à errer dans la forêt, décrivant un large cercle autour de la cabane. Lorsqu'il revint, la lumière de la lampe de Malvina éclairait timidement l'intérieur de la cabane, comme la flamme d'une bougie dans une lanterne. Marc entra. Malvina dormait. Elle s'était recroquevillée dans son duvet. Le cahier de Grand-Duc était ouvert juste à côté de sa tête. Marc sourit malgré lui. Cette jeune femme, de 4 ans son aînée, torturée de toute sa haine accumulée, l'attendrissait, comme une autre petite sœur qu'il aurait eu à protéger. Il s'approcha silencieusement, prit le cahier vert et ressortit de la cabane. Il retourna s'asseoir sur le tronc, tourna les pages mécaniquement jusqu'à la dernière, les ultimes lignes. J'ai recensé dans ce cahier tous les indices, toutes les pistes, toutes les hypothèses. 18 ans d'enquête. Tout est consigné dans cette centaine de pages. Si vous les avez lues avec attention, vous en savez maintenant autant que moi. Peut-être serez-vous plus perspicace. Peut-être suivrez-vous une direction que j'ai négligée. Peut-être trouverez-vous la clé, s'il en existe une. Peut-être. Pourquoi pas? Pour moi, c'est terminé. Dire que je n'ai ni regret ni remords serait exagéré. Mais j'ai fait du mieux que je pouvais. J'ai fait du mieux que je pouvais. Aucune intuition nouvelle ne lui venait. Il essaya de téléphoner à Lily, mais il n'y avait pas de réseau dans ce coin perdu de montagne. Marc pesta contre sa stupidité. Venir se perdre ici était la pire des idées qu'il ait jamais eues. Il devait se contenter de lire les messages en mémoire dans son téléphone. Il relut le dernier, reçu dans le camion dans l'après-midi. « Marc, je rentre en salle d'opération demain matin à 10h. Tout est OK, ne t'en fais pas. Je te téléphone ensuite. Tout ira bien. Je t'embrasse. » Demain, 10h. Il se sentait tellement inutile. Le ululement d'une chouette ajoutait à l'ambiance sinistre de la nuit. Une chouette ou un hibou. Ou un grand-duc, sourit Marc pour lui-même. Il n'y connaissait rien en rapace, et de toute façon l'oiseau nocturne était caché quelque part dans les branches, invisible. Marc braqua sa torche, il n'éclaira que des feuilles. « Où te caches-tu » fit-il à voix haute. Sa voix se perdit dans la montagne. « Insaisissable, hein ? Tapis dans l'ombre ? « Depuis combien de temps es-tu là, sur le mont, toutes les nuits, à regarder, à espionner ? Le grand oiseau de fer qui s'est écrasé dans ton royaume il y a des années, tu étais déjà là, hein ? Georges Pelletier qui dormait dans la cabane, la tombe qu'il a creusée, la gourmette. Tu as vu tout ça aussi? Et Grand-Duc, des années plus tard, jouant les fossoyeurs. Qu'as-tu vu, hein? Dis-moi. Un ululement presque joyeux lui répondit. Tu te fous de ma gueule, hein? Tu crois vraiment que je n'ai plus aucune chance? T'as pas tort, remarque. Imagine pourtant, imagine. Ma petite, elle a 12 ans. On est seuls, tous les deux, en pleine nature, sous une tente, la nuit. Je lui raconte les étoiles, je lui dis quelque chose comme... Tu vois, ma jolie, ce soir-là, je n'en menais pas bien large. J'étais là-haut, dans la montagne, dans le brouillard complet. Il fallait pourtant que je trouve avant le lendemain, 10 heures. Ta mère dormait à l'autre bout du monde. Il s'en est fallu d'un rien, ma jolie, pour que tu ne les vois jamais, les étoiles, pour que je ne l'entende jamais, ton rire, pour que je ne les serre jamais, tes petits doigts. Ton papa t'a sauvé in extremis, tu sais. Il a été malin, ce soir-là. La torche balaya à nouveau les branches. Une ombre noire s'envola à un grand-duc ou un autre oiseau nocturne. T'as raison, je déconne. Marc retourna à la cabane. Il avait froid. Il s'enfonça dans son duvet, s'allongea près de Malvina. Couché sur le dos, ses yeux s'échappaient vers le ciel à travers les ouvertures du toit. Autant de lucarnes vers l'infini. Il fallait qu'il réfléchisse encore, qu'il soit son propre tortionnaire, qu'il se questionne, jusqu'à ce que son inconscience, sa mémoire, sa réflexion, lui avoue quelque chose. N'importe quoi. Une clé. Il devait utiliser chaque minute des heures qui lui restaient. Toute proche, Malvina dormait d'un sommeil agité. Elle changeait régulièrement de position sans se réveiller, poussant de temps à autre des petits cris. Progressivement, elle se rapprochait de Marc, recherchant instinctivement la chaleur de son corps. Avait-elle déjà dormi avec un homme? À côté d'un homme? Minuit devait être passé depuis longtemps. Marc n'avait pas fermé l'œil la nuit précédente. Il sombra dans le sommeil sans même s'en apercevoir. Épuisé. Il dormit 3 heures. Ce fut le cri de Malvina qui le réveilla en sursaut. Un cri de démente. Malvina se tenait debout dans la cabane, tremblante. Ses longs cheveux décoiffés lui donnaient une allure de sorcière apeurée. 2 jambes maigres dépassaient du pull qu'elle avait gardé pour dormir. Ses 2 pieds sautillaient comme s'ils étaient posés sur des braises. « Ça va ?» fit Marc d'une voix sourde.
« Ouais. T'en fais pas pour moi. J'ai l'habitude. »
Elle se recoucha. Marc la regardait, inquiet.
« Ça va, je te dis. »«
T'es sûr ?»«
Ouais, rendors-toi. J'ai pas besoin de nounou. Fais pas chier. Dors, je te dis. »«
Je suis pas sûr de pouvoir encore... »«
Prends ton pouce, alors. T'as bien dû apprendre à vivre avec tes cauchemars, toi aussi. Démerde-toi. »
Malvina tourna le dos à Marc. Son duvet touchait le sien. Étrange intimité. Marc demeura à nouveau les yeux ouverts. Il était 4 heures du matin. C'était maintenant ou jamais. Il fallait qu'il tente quelque chose, là, tout de suite. Ensuite, il serait trop tard. Malvina s'était déjà rendormie. Tenter quoi? Les yeux de Marc continuaient de fixer la nuit. Des étoiles apparaissaient et disparaissaient, sans doute masquées par d'invisibles nuages poussés par le vent du Jura, comme de fausses étoiles filantes, appelant des vœux qui ne se réalisent pas, comme la lumière alternative d'un avion de nuit qui se confond avec les constellations, plus proches, éphémères. Tenter quoi? Les réflexions de Marc le ramenaient toujours aux dernières lignes du cahier vert, à ce suicide avorté. Grand-Duc avait-il bluffé? Avait-il vraiment découvert autre chose ce soir-là, après avoir rédigé ses mémoires, après avoir reposé son stylo? À 5:00, un fait nouveau qu'il n'avait pas écrit dans son cahier. Marc essaya de se souvenir. Quels étaient les mots exacts de Malvina, hier dans le train? Marc se concentra. Devant ses yeux, les 2 seules constellations qu'il était capable de reconnaître, la Grande Ourse et Vega, venaient de disparaître. Les paroles de Malvina s'inscrivirent dans l'obscurité de sa mémoire. Crédule, Grand-Duc a téléphoné à ma grand-mère. Avant-hier, il lui a dit qu'il avait trouvé quelque chose, la solution de toute l'affaire, paraît-il. Comme ça, à 5:00, le dernier jour, juste au moment où il allait se tirer une balle dans la tête au-dessus de l'édition de l'Est républicain du 23 décembre 1980. Il avait besoin, encore d'un jour ou deux pour rassembler des preuves, mais il affirmait être sûr de son coup. Il avait résolu le mystère. Il avait besoin de 150 000 francs en plus, aussi. Marc se repassait en boucle ses paroles. S'il n'avait pas bluffé, Grand-Duc avait découvert sa solution au moment de se tirer une balle dans la tête, dans son bureau, rue de la Butte aux Cailles, face à la cheminée où se consumaient les archives. L'avant-veille au matin, Marc avait fouillé ce bureau en détail. Il n'y avait rien trouvé. Malvina non plus, à part un cadavre. Qu'avait-il oublié ? Marc essaya d'imaginer la scène du suicide de Crédule Grand-Duc. Le canon contre la tempe, l'encre du journal qui épongerait le sang. Pourquoi Grand-Duc avait-il interrompu son geste ? Qu'avait-il entendu, vu, lu ? L'idée vint naturellement, pas plus stupide qu'une autre. L'Est républicain du 23 décembre 1980. Le journal était sans doute le dernier point que les yeux de Grand-Duc avaient dû fixer. Et si la solution était imprimée dans un journal vieux de 18 ans ? Pourquoi pas, après tout, au point où il en était ? Si ce n'était pas une piste, c'était au moins un but. Marc se leva, sans bruit, pour ne pas réveiller Malvina, qui continuait de pousser des petits cris dans son sommeil agité. Il jeta en vrac son matériel dans le sac à dos, sortit de sa poche une des pages déchirées du journal de Grand-Duc, la retourna et écrivit au dos « Suis parti chercher les croissants, Marc ». Il posa le mot par terre, juste à côté de la tête de Malvina. Il laissa le topo-guide à proximité. Il conserverait la carte. Marc regarda une dernière fois la forme du petit corps de fillette perdu dans le duvet bleu-gris trop grand pour lui. Malvina parviendrait bien à s'en sortir toute seule. Le soleil n'était pas encore levé, mais une mince clarté laissait deviner au loin la ligne de crête. Les étoiles s'éteignaient une à une. L'aube du dernier jour, Marc pensa à Lily dans une chambre blanche. Il se mit en route.